Un podcast, une œuvre. Clément Cogitor, Parmi nous, 2011. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, nous allons vous parler d'exil, un thème qui résonne avec l'actualité et traverse l'histoire de l'art. Partons à la rencontre d'artistes qui ont connu l'exil ou qui travaillent avec des personnes concernées. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons l'œuvre de Clément Cogitor, Parmi nous. C'est un de ses premiers courts-métrages réalisés en 2011, à l'issue de sa formation au Studio des Arts Contemporains du Frénois, à Tourcoing. Dans cette fiction nourrie du réel, c'est en suivant un jeune clandestin que l'artiste Clément Cogitor aborde la question des flux migratoires. Il filme ses tentatives pour rejoindre l'Angleterre depuis un endroit qui peut faire penser au camp situé à Calais, communément appelé la jungle de Calais. Dans cet épisode, nous entendrons successivement le vidéaste Clément Cogitor, la sociologue Yasmine Bouaga qui a longuement enquêté sur le camp de Calais en 2015, et Shadi Abdulrahman, réfugié syrien. Mais écoutons d'abord la conférencière Elisa Fedeli nous présenter le court-métrage titré « Parmi nous » de Clément Cogitor.
C'est un film de fiction qui dure environ 29 minutes. Il est inspiré par notre actualité, la traversée des frontières par des migrants dans les ports du nord de la France. Le film raconte la tentative échouée d'Amine, un jeune clandestin. Ça commence avec un générique, puis une scène de nuit. Bruit de moteur, aboiement de chien. Des douaniers contrôlent les camions qui arrivent au port avec leurs lampes de poche et ils découvrent un homme qui est caché sous un camion. Celui-ci tente de s'enfuir et se fait finalement arrêter par les douaniers, menottes au poignet. D'autres hommes réussissent à s'échapper et disparaissent dans l'obscurité. Les scènes alternent sans transition des moments de grande violence et des moments de fraternité. Il y a de l'action, il y a du suspense, mais il y a aussi des moments de contemplation. Les dialogues sont rares, et lorsqu'ils sont en arabe, ils sont sous-titrés, en français. La caméra, généralement, suit Amine de près, de dos, près de ses épaules, près de son visage. Caméra rapprochée, comme ça, on est presque lui, on est Amine.
J'ai eu l'idée de ce film peu de temps après mon passage au Frénois, où j'avais pas mal voyagé dans la région pour des repérages, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Clément Cogitor, artiste et réalisateur.
Et je me rappelle avoir traversé de manière totalement inattendue, enfin des endroits où je ne m'y attendais pas, des camps de migrants installés de manière très, très précaire et très provisoire. C'était aussi peu de temps après que Nicolas Sarkozy rase Sangatte. Et c'était un moment où la situation des migrants en France commençait à devenir problématique et que ça n'allait que empirer jusqu'aux révolutions arabes, quand tout d'un coup l'afflux est devenu beaucoup plus fort et les pouvoirs publics n'ont jamais réussi à vraiment trouver de solutions pérennes. Mais disons, c'était le début de la crise et Sarkozy avait cru régler le problème en rasant le camp d'accueil qui avait été installé pas très loin. Et c'était suite à cette expérience-là, la traversée d'une forêt, de voir des traces, des restes, croiser des silhouettes dans la forêt, sur la côte, qui tout d'un coup m'a fait imaginer un film autour de la question de la migration, mais presque, enfin, vu comme un film de fantôme un peu. Ce qui est un peu l'arche dramatique de ce film qui dure une trentaine de minutes, qui est assez simple, voire très minimal. Mais il y a cette idée comme ça de la porosité des mondes. Donc la question de la perméabilité, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et d'un point de vue migratoire, en fait, elle est très évidente, c'est-à-dire franchir une frontière, passer d'un espace à un autre, la question de d'une trajectoire. Mais derrière ça, il y a aussi la métaphore de différents mondes qui cohabitent, le monde du visible et de l'invisible, le monde des morts et des vivants, et de jouer sur une espèce de, de trouble comme ça entre ce qui est d'ordre de l'expérience et ce qui est de l'ordre de l'imagination. On ne sait pas si les choses ont vraiment eu lieu ou pas. Des ellipses qui trouent le récit pour créer des sortes de poches irrésolues de la trajectoire, enfin des moments d'absence des personnages. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans mon travail. Et il y a quelque chose qui fait partie, je pense, de mon langage ou de mon vocabulaire, c'est beaucoup les interactions entre les corps et les paysages. Comment les hommes occupent, traversent, s'accommodent d'un territoire et d'un paysage, tant d'un point de vue naturel, physique, organique, que d'un point de vue géopolitique.
Shadi Abdulrahman a fui la Syrie pour des raisons politiques en 2015. Après la traversée de plusieurs pays, il rejoint le nord de la France et fait partie des 8000 migrants que compte alors le site de Calais.
Je m'appelle Shadi, je suis de Syrie. Je suis parti de Syrie parce que le régime de Syrie m'a demandé pour faire le service militaire avec eux en 2014. À ce moment-là, j'étais en train de continuer mes études d'être magistrat. Donc, j'ai décidé de quitter mon pays et partir. Je suis parti tout seul. Je suis parti le 29 août 2014 de Syrie en voiture à Beyrouth, en Liban. Je suis resté avec ma famille qui sont déjà là. Je suis resté pendant 4 mois presque. Puis j'ai réservé un billet de Beyrouth à Mersin, en Turquie. À ce moment-là, il n'y a pas de visa pour demander pour partir. Puis je suis resté en Turquie 5 mois et 3 semaines. Parce qu'à ce moment-là, la frontière contrôlait très bien. Donc je n'arrive pas de traverser. Et puis j'ai pris le petit bâton gonflé et traversé de Izmir à Grèce, à la île de Chios. Je suis resté là-bas 2 jours. Après Athènes, après Macédoine, après à Belgrade, puis Hongrie, puis Vienne, puis en Allemagne à Francfort, puis ici en France à Calais. Je suis arrivé à Calais le 18 juin 2015 et je suis resté là-bas jusqu'à 18 octobre 2016. En fait, je suis allé là-bas d'essayer de traverser à Londres parce que déjà je parle anglais. Donc j'ai pensé c'est mieux traverser à Londres et continuer ma vie là-bas. J'essayais beaucoup, mais je n'arrive pas. Donc à la fin, j'ai décidé de rester ici en France. Donc j'ai demandé d'asile, mais toujours je suis resté à la jungle de Calais parce qu'il n'y a pas d'autre place.
Au moment où j'ai tourné, ça s'appelait la jungle. Et ça, du coup, je l'ai essayé de le traiter comme ça, en fait, puisque Sangatte avait disparu, les camps étaient rasés, la vie était dans la jungle. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'ai essayé de rendre compte. Ces forêts du nord de la France, assez touffues, très vertes, très à la fois menaçantes et finalement assez belles aussi, mais qui du coup accueillent des personnages en situation de très très grande précarité et comment les personnages occupent et investissent ce terrain-là.
On le voit bien dans le film, les personnes qui essayent de passer dans les camions en se cachant, là c'est la frontière, il faut bien qu'elles dorment quelque part, donc elles peuvent se blottir dans des encablures de portes, mais elles sont exposées à ce moment-là au regard de la police et à des risques d'être expulsées.
Yasmine Bouaga, sociologue.
Et donc, petit à petit, ce qui a été privilégié, c'est de se cacher dans les zones boisées en lisière de la ville. C'est pas très loin, en fait. C'est un peu comme un petit parc à l'extérieur de la ville. Et les premiers lieux, c'était dans la zone industrielle. Et donc, c'est dans des petites zones boisées. Comme il y avait parmi les personnes migrantes beaucoup d'Afghans, la forêt se dit jungle en afghan, ce qui a donné jungle en anglais, en fait. Et donc, ce que les bénévoles racontent, c'est que après des expulsions de campements en ville, qui retrouvaient les personnes migrantes lors des distributions alimentaires, qui leur disaient « Mais en fait, où êtes-vous? Où est-ce que vous dormez ?» Personne répondait « In the jungle », dans la forêt, en fait. Et le terme est resté aussi parce que ça frappait beaucoup les soutiens et les personnes qui agissaient en solidarité avec ces migrants, qui avaient le sentiment qu'on les traitait comme des animaux, parce qu'on les expulsait, on les maltraitait, et qu'on les reléguait dans un endroit du sauvage. Et donc le terme de jungle est resté aussi pour dénoncer les mauvaises conditions de vie de ces personnes. Et il a été aussi réapproprié dans l'autre sens, par plutôt des groupes hostiles, des groupes d'extrême droite, qui aussi utilisent ce terme pour dénoncer une supposée sauvagerie de ces étrangers menaçants. Et donc le mot cristallise énormément d'imaginaire, et c'est pour ça qu'il est aussi difficile à employer, mais il est tellement répandu parmi les personnes migrantes, en fait c'est un terme d'usage courant en fait.
Dans le film de Clément Cogitor, tous les personnages sont des hommes. Reflet de la réalité, puisque la jungle de Calais est surtout un territoire masculin.
Dans les années, je sais pas, 2007 à 2011, 12, avant bon, le début des gros flux migratoires, c'était surtout des hommes qui cherchaient à échapper à la misère et chercher du travail. C'est après qu'on commençait à arriver vraiment des familles entières avec beaucoup plus de femmes. Donc c'était aussi une question de prendre peut-être la situation qui était la plus, je dirais pas ordinaire, mais quotidienne dans ces camps-là. C'était des petits groupes d'hommes, les uns à côté des autres, qui font souvent plus gros groupes. Et les femmes étaient en général, enfin, quand il y avait des abris un peu plus sûrs ou un peu plus protégés par les associations, c'était souvent les femmes qui étaient placées là. Et donc, à ce moment-là, elles n'avaient pas exactement les mêmes conditions de vie. Elles étaient un petit peu plus préservées, ce qui, quelques années après, n'était plus du tout le cas.
Les gens vont à Calais pour passer la frontière vers la Grande-Bretagne, parce que Calais, c'est le principal point de passage, c'est le point géographiquement le plus proche de la Grande-Bretagne, et c'est surtout le point où il y a les infrastructures qui permettent de passer, le ferry et le tunnel sous la Manche. Ça ne veut pas dire que la plupart des personnes qui viennent en Europe essayent d'aller en Angleterre. En fait, il y a une concentration de personnes à Calais parce que la frontière est particulièrement difficile à passer, alors que les autres frontières internes à l'Europe, en fait, sont aisément franchissables. Et donc Calais a été un point de cristallisation parce que c'est un goulot d'étranglement, en fait. C'est un carrefour et une impasse où il y a une telle surenchère à la fois technologique, sécuritaire, quasi de militarisation de la frontière, que les personnes se retrouvaient vraiment, vraiment bloquées dans cette attente qui a créé un campement et qui a grandi, qui a grossi, jusqu'à ce que finalement les autorités françaises décident de disperser ce campement qui ensuite va se reconstituer sous d'autres formes, un peu plus dispersé le long du littoral. Mais si on veut compter en termes de flux de migration, c'est une minorité de personnes qui cherchent à aller vers la Grande-Bretagne. Mais comme elle se trouve bloquée là, elle est plus visible en fait.
Rakadna ala at-tariq as-sari', habatat ala ar-raml, wa kammalt, wasalt al-jiha at-thani, laffit lawara, shufit Hassan, ba'dha indafa' ala jihati, sarakht ba'la sawti alashan yuwaqif. Sma't al-khabta. شفته بيختفي تحت الشاحنة كمان صوت البريكات سمعته
Les techniques de passage, elles ont beaucoup évolué. Moi, la période où j'ai fait l'enquête, ces techniques ressemblaient beaucoup à celles qu'on voit dans le film de Clément Cogitor. C'est-à-dire que c'est essentiellement du passage par les camions. Le tunnel est extrêmement surveillé. Il y a eu des tentatives de passage, notamment en grand groupe, en essayant de prendre d'assaut le tunnel. Mais finalement, ce qui était plus praticable pour les personnes, c'est de se cacher dans les camions de marchandises, camions qui vont ensuite passer essentiellement sur le ferry, sachant que ces camions passent à travers des surveillances de rayons X, détecteurs de battements de cœur, détecteurs de CO2, etc. Donc il y a tout un appareil très sophistiqué, mais l'ampleur des circulations de marchandises entre la France et la Grande-Bretagne fait qu'on a toujours une petite chance d'y échapper. Et donc c'est pour ça aussi que les personnes font des tentatives et des tentatives et des tentatives. Et donc c'est vraiment par ces tentatives de passage-là que les personnes essayaient d'aller en Grande-Bretagne, en montant dans les camions, soit en profitant des pauses des chauffeurs de camions, donc notamment sur les aires d'autoroute. Mais au fur et à mesure, ces aires d'autoroute ont été progressivement fermées. Et donc les personnes devaient remonter plus en amont, ou alors profiter d'embouteillages sur la rocade menant au ferry pour monter dans les camions. Des embouteillages liés à la logistique du déchargement ou des embouteillages créés. Ce qui a amené cette méthode du dougar. Alors, c'est encore un argot de la migration, en fait. C'est un mot qu'on trouve dans l'argot afghan pour dire bouchon, embouteillage, et qui s'est répandu parmi les personnes parlant toutes sortes de langues, comme pour désigner, en fait, une action intentionnelle de création d'un barrage sur la route pour pouvoir s'infiltrer dans les camions. Quelque chose qui est très dangereux à la fois pour les personnes migrantes et puis pour les usagers de la route. Ça a amené à des mesures aussi de création de murs le long de la rocade, tout un appareil sécuritaire qui est devenu de plus en plus imposant, en fait, à Calais. C'est devenu une ville sous siège, en fait. Et d'ailleurs, Clément Cogitor le dit, cette ville assiégée, elle le dit même avant même que l'ensemble de cet appareil de surveillance, de contrôle, de contrainte soit déployé. C'est-à-dire qu'à l'époque où il dit ça, il n'y a pas encore tout ce déploiement de barbelés, de béton, même de douves pour empêcher les gens de passer. Et ce qui a vraiment enfermé en fait, les Calaisiens dans une ville d'apparence très militaire.
Au premier tiers du film, le personnage principal, Amine, renonce finalement à tenter de passer l'embarcadère. Avec ses compagnons d'infortune, sur le chemin du retour dans les sentiers forestiers de nuit, il croise un autre groupe de jeunes qui se retrouvent clandestinement pour une rave party.
En fait, je fais plutôt pas de parallèle, mais une sorte de. C'est plutôt deux lignes qui se croisent. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai une fois vécu, pas exactement de cette manière-là, mais en tout cas, ce qui est commun aux deux, c'est l'occupation d'un espace de manière transitoire ou impermanente, sans aucune autorisation, et d'en faire un usage qui est très différent dans les deux cas, mais en tout cas, qui est ni officiel, ni soumis à aucune autre règle que ceux des habitants ou des usagers de ce moment-là, quoi. Et aussi des groupes très informels. Les gens qui participent à ça sont ceux qui sont arrivés jusque-là. Il n'y a rien d'autre qui les relie. Il y a pas, voilà, on n'est pas dans le cadre d'un groupe constitué, mais c'est des groupes mobiles qui peuvent grossir ou diminuer. Enfin, il y a quelque chose de très fluide comme ça. Et surtout dans leurs déplacements, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène. Et je m'étais retrouvé comme ça sur un chemin la nuit, puis de voir des silhouettes passer dans des arbres, et puis petit à petit entendre la musique, et en fait de mettre du temps à comprendre ce qui était en train de se passer. Mais ce qui m'intéressait beaucoup dans la mise en scène et le récit de ça, c'était que tout d'un coup, enfin, ces personnages-là qui traversent tous les jours cette même forêt, ce même paysage pour arriver jusqu'au port et essayer d'embarquer sous les camions et échouer et revenir et recommencer le lendemain. Tout d'un coup, ce chemin-là était perturbé par d'autres usagers qui en faisaient un usage tout aussi clandestin, mais tout d'un coup festif. La scène est assez courte au final, mais il y a l'idée d'une assez étrange d'une communauté qui se produit là et en même temps dans principe de la rave party, de l'électro, il y a quelque chose à la fois de commun et de solitaire. C'est-à-dire que les gens dansent à la fois seuls et ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, cette communauté de solitude, voilà, qui me semblait être une réponse intéressante à celle des groupes migratoires, un ensemble de solitude, et qui cherche à produire du commun, mais qui souvent ça échoue, ça ne se déploie pas, quoi.
J'ai trouvé cette scène de rave party vraiment intéressante parce qu'elle permettait de montrer aussi cette dimension de grande vitalité des jeunes hommes qui sont dans une situation terrible, dans l'attente, dans les campements, et dans une grande misère. Mais ce sont aussi des jeunes hommes qui ont une très forte énergie, une grande vitalité, libido aussi, une envie de vivre, qui est très, très belle et qui a aussi une dimension entraînante que moi j'ai ressenti beaucoup sur le terrain et que là on voit dans cette scène.
Si dans le film, la musique sert d'exutoire et de rencontre entre les hommes, Shadi dans la vraie vie s'est reconnue dans le poème intitulé « Pardonnez-nous » du Syrien Nizar Kabani, qui l'a aidé à se sentir moins seul.
Samihuna.
Pardonnez-nous. Si on s'est rassemblés comme des moutons au bord d'un bateau, on s'est éparpillés dans tous les océans des années. Et des années. On n'a pas trouvé entre les riches arabes un riche qui accepte de nous nourrir ou nous racheter. On n'a pas trouvé entre les belles femmes arabes une femme qui accepte de nous aimer ou nous racheter. On n'a pas trouvé entre les révolutionnaires arabes un révolutionnaire qui ne nous a pas poignardés. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous si on a tout refusé et on a tout cassé et on a tout arraché et on vous a jeté nos prénoms. Les villages nous ont rejetés, les ports nous ont rejetés et les aéroports qui reçoivent des vols matins et soirs nous ont rejetés. Le soleil de l'oppression est partout, nous a brûlés. Pardonnez-nous si on a craché sur une époque qui n'a pas de nom. Pardonnez-nous si on ne croit plus à rien.
Je me souviens très bien quand j'étais obligé pour traverser la mer entre Turquie et la Grèce. J'étais obligé de payer l'argent juste pour prendre les petits bâtons gonflés. Normalement, elle prend maximum 15 personnes. On était entre 40 et 50 personnes sur le bâton. On était vraiment comme 10 moutons. Donc je me sens que vraiment cette poème, il donne une idée de ma vie quand je suis essayé de traverser la mer, les pays. Et maintenant aussi, elle m'encourage beaucoup pour ma vie quotidienne maintenant. Et je pense que ce n'est pas juste moi. Beaucoup des jeux de souris ici. نصم درك زين هوي شيالي للحرة تقيلة أخويا معاي في السين هوي أبدا ما حمينا حفارين في السين هوي أبدا ما في رزيلة عيط والله وحدة أبدا أبدا ما تلفينا نصم درك زين هوي شيالي للحرة تقيلة أخويا معاي في السين هوي أبدا ما حمينا حفارين في السين هوي أبدا ما في رزيلة عيط والله وحدة أبدا أبدا ما تلفينا فينا قالوا كتير بتقولوا هوي بيجي طاير بيوصلينا أخوك حفر يا مان هوي أبدا ما حمينا.
On a énormément de discours médiatiques autour des passeurs, toute une mafia qui serait très professionnalisée. Mais ce que j'ai vu aussi sur le terrain, c'est la manière dont se passent les sortes de petits savoir-faire appris sur le tas et de personne à personne. Moi, j'avais accompagné un groupe de jeunes érythréens qui étaient vraiment tout jeunes. Ils avaient entre 15 et 18 ans. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans le film, comment on est à la fois dans cette situation de créer un nouveau groupe d'entraide qui est très éphémère, se passer un peu des connaissances apprises sur comment est-ce qu'on arrive à traverser cette frontière extrêmement gardée, et comment on se retrouve dans une situation à la fois de guetteur et de traqué c'est-à-dire guetter le moment opportun pour passer dans le camion et en même temps toujours être traqué par la police, par les services de sécurité du port ou du tunnel qui sont très très nombreux pour essayer d'empêcher justement cette traversée de la frontière. Mais il y a eu aussi beaucoup de communication et de coopération entre ces communautés à travers aussi des langues de communication qui sont l'anglais mais aussi l'arabe, beaucoup utilisées comme langue vernaculaire entre des personnes dont ce n'est pas nécessairement la langue maternelle, et avec aussi toute une forme de création linguistique d'argot de la migration qui renvoie aussi à la manière dont on communique les informations sur ce qui est important en période de migration, par exemple tout ce qui est autour de la prise d'empreinte digitale, donc faire attention à cette prise d'empreinte, voilà le mot de préfecture aussi qui circule beaucoup et qui montre aussi bien l'importance de ces relations sociales qui se tissent en exil.
Il n'y a pas de vrais migrants qui jouent leur propre rôle, parce qu'on est aussi dans un cadre de fiction, enfin avec une production et la question du coup de la responsabilité, l'emploi des personnes sans papier est très problématique pour, par exemple, les assurances, la légalité, tout ça. Dans le cadre d'un documentaire, c'est différent. Et aussi parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'autres choses à faire, comment dire, et à investir que des plateaux de tournage pour leur propre survie. Donc je saurais pas comment jouer avec ça dans des situations aussi dramatiques. Dans des cas moins précaires, c'est quelque chose que je fais assez souvent, de demander aux gens de jouer leur propre rôle dans certaines situations. Mais quand il s'agit de survie comme ça, pour la fiction, ça me semble assez compliqué.
Jibou sayara. Iftah le bwab hattouni fiha iza bidkou. Tali'u bidoun ay mukawami.
Ici, un homme vient de se faire arrêter par les forces de sécurité. Il n'oppose aucune résistance, mais comme pour les mettre en garde, il leur dit ces mots. À nouveau, je franchirai les mers. Sachez maintenant qu'à chaque fois, je serai plus nombreux. Bientôt viendra un temps où vos bras seront trop faibles, vos voitures trop petites et vos avions trop chargés. Ces propos, à la consonance prophétique, sont dits en arabe littéraire dans le film.
On a dû harmoniser un petit peu les langues et les accents. Certains des acteurs parlaient différents types d'arabe, certains kurdes. Donc il a fallu harmoniser un petit peu, trouver une langue ou un accent un petit peu à chacun pour que les langues se retrouvent à un endroit. Chacun avec son accent, mais en même temps qu'on sente que les personnages se comprennent tous dans le même arabe. J'ai mis beaucoup de temps à trouver l'acteur qui a le plus de textes, qui s'appelle Khalifa Natour, et qui est celui qui a le plus de textes, mais je voulais quelqu'un capable de passer d'un dialogue très naturaliste à un texte, presque un poème incantatoire. Et je m'appelle, qu'on a fait un gros travail sur ça, à la fois la langue elle-même, comment on glisse de l'arabe dialectal vers l'arabe classique, et dans son interprétation, comment est-ce qu'il allait glisser du naturalisme à une espèce d'incantation, une espèce de prophéties un peu étranges, quoi. Mais avec on a travaillé sur le rythme de la langue comme si c'était une sorte de poème.
Quelque chose a cédé. Il y a eu un grand bruit sur la côte. Un choc. Chacun d'abord est rentré. On a rappelé les enfants, fermé les portes et les volets. Et beaucoup. Presque toutes. Toutes les familles ont une par une quitté la ville. Puis on a vu venir des camions aux portes de la ville. Des hommes ont ouvert les bâches. Et on a vu descendre partout des cargaisons entières de visages.
Et la femme qui parle plus tard en français, on ne sait pas vraiment qui c'est, on voit pas son visage, une espèce de maison avec des dormants un peu partout, des gisants. Et elle s'adresse à lui en racontant une histoire comme un conte ou un mythe très ancien et qui répond quelque part au texte qu'on a entendu de Khalifa avant, sans pouvoir en tirer un sens naturaliste ou réaliste assez clair. Ça résonne dans un espace plus mythologique que naturaliste et que le personnage reçoit comme un des récits entendus dans sa trajectoire. Mais en tout cas, il est question de barrages qui cèdent. Mais c'est voilà, deux moments un petit peu en miroir où tout d'un coup le langage n'est plus une suite d'informations assez laconiques que les personnages s'envoient pour obtenir, je sais pas, à manger, une information sur où est-ce qu'on peut passer ou quoi, mais tout d'un coup le langage prend en charge un souffle, quoi, et il raconte quelque chose de commun, qui est aussi une des questions du film, de comment est-ce qu'on passe d'un endroit à un autre, d'une communauté à une autre, et cette idée de la trajectoire, ouais, du franchissement.
Aujourd'hui, on en est où ? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un éternel recommencement de situation où les personnes en migration sont extrêmement précarisées, harcelées pour ne pas rester sur place. On interdit aux associations de leur distribuer de la nourriture pour ne pas que les personnes s'installent sur place. Et donc, en quelque sorte, les pouvoirs publics assument de priver de droits fondamentaux les personnes migrantes, pour essayer d'éviter qu'il y ait à nouveau une fixation d'un campement qui puisse rester et devenir aussi important que ça a pu l'être à d'autres moments, voire faire appel d'air. C'est vraiment la hantise des autorités d'avoir un nouveau campement soit devienne tellement important qu'il est connu à l'étranger et qu'il fasse venir des personnes à Calais. Et donc, il y a cette sorte de crainte presque paranoïaque, hein, qui amène à des décisions qui sont de l'ordre vraiment de la violation des droits fondamentaux.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission, un podcast une œuvre du Centre Pompidou. Réalisation et production, Seam Boutata. Montage, Alexandra Longuet. Mixage, Yvan Gariel. Éditorialisation et production, Clara Gouraud. Nous remercions tout spécialement Shadi Abdulrahman, Yasmine Bouaga et Clément Cogitor pour leur témoignage. Malika Berichi pour sa lecture en français du poème de Nizar Kabbani. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de la saison Art et Exil.